Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la pression exercée par les créanciers officiels sur le Ghana et la Zambie pour prioriser leur remboursement au détriment de deux banques africaines majeures, l'Afreximbank et la TDB. Pour débuter, pouvez-vous expliquer ce qui motive ces créanciers à agir ainsi ?
Les créanciers officiels souhaitent que leurs propres créances soient remboursées avant celles dues à l'Afreximbank et à la Banque de commerce et de développement. Cette exigence provient d'une volonté de sécuriser leurs fonds publics jugés prioritaires par rapport à d'autres formes de financement, mais cette logique soulève de nombreux enjeux pour la stabilité financière régionale.
Cette situation semble s'intensifier. Comment les gouvernements ghanéens et zambiens réagissent-ils à ces pressions? Et dans quelle mesure leur autonomie décisionnelle est-elle préservée?
Bien que les ministères des Finances de ces deux pays affirment que la décision finale leur appartient, ils subissent d'intenses pressions diplomatiques et économiques. Cette dynamique met en lumière la vulnérabilité des États africains face aux négociations internationales, surtout en période de surendettement.
Pour mieux comprendre l'enjeu, parlons du statut de créancier privilégié. Quelle en est la définition exacte et pourquoi est-il si fondamental pour des institutions comme l'Afreximbank?
Le statut de créancier privilégié signifie que, même en cas de crise financière, les paiements à ces institutions passent avant ceux dus aux créanciers commerciaux classiques. Cela reflète leur rôle unique, fournir des financements à faible coût pour soutenir la stabilité macroéconomique et le développement durable, contrairement aux banques commerciales qui privilégient la rentabilité.
Les grandes institutions comme la Banque mondiale bénéficient historiquement de ce statut. Pourquoi certains contestent-ils que l'Afreximbank et la TDB y aient droit et quelles conséquences cela pourrait-il entraîner?
Le débat porte sur la structure hybride de ces banques, qui acceptent des actionnaires privés. Certains estiment que cela les rapproche de créanciers commerciaux. Toutefois, ignorer leur mission de développement reviendrait à fragiliser l'ensemble du système financier africain, car leur accès au capital deviendrait beaucoup plus coûteux.
Explorons ce modèle hybride plus en détail. Comment l'Afreximbank et la TDB se comparent-elles à d'autres banques de développement régional, telles que la CAF en Amérique latine?
La CAF, comme l'Afreximbank, combine capitaux publics et privés pour accroître sa flexibilité. Ce modèle permet de mobiliser rapidement des ressources, ce que les institutions entièrement publiques ont parfois du mal à faire. Par exemple, la CAF a pu maintenir une excellente notation de crédit tout en finançant des projets risqués mais essentiels.
C'est intéressant, surtout dans un contexte de besoins urgents en Afrique. Ce modèle comporte-t-il des risques spécifiques?
En effet, il y a un risque de perception négative. Certains acteurs financiers assimilent ces banques à des entités commerciales, remettant en cause leur statut privilégié. Pourtant, ces institutions ont été conçues pour combler le vide laissé par les marchés traditionnels, notamment dans le financement d'infrastructures ou d'exportations africaines.
Passons à l'impact concret de cette remise en cause. Quelles seraient les conséquences d'un déclassement du statut privilégié pour ces banques africaines en termes de notation de crédit et de coût du capital?
Si ces institutions étaient traitées comme de simples créanciers commerciaux, leur notation de crédit pourrait chuter de plusieurs crans. Cela entraînerait une hausse immédiate des taux d'intérêt sur leurs emprunts. Selon la Banque africaine de développement, une dégradation de 2 points peut augmenter le coût du capital de 30 à 50%, limitant drastiquement leur capacité de prêt.
Cela risquerait-il d'aggraver les inégalités dans l'accès au financement du développement, notamment entre l'Afrique et d'autres régions du monde?
Absolument. Les conditions d'accès au financement deviendraient moins favorables pour l'Afrique alors que les banques asiatiques ou latino-américaines conservent leur statut privilégié. Cela pourrait créer un cercle vicieux où la moindre crise accentue la vulnérabilité financière de la région.
Venons-en aux conséquences sur le terrain. Comment cette situation risque-t-elle d'affecter les économies du Ghana, de la Zambie et plus largement du continent africain?
Le choix est cornélien, soit ces pays utilisent leurs ressources rares pour rembourser les créanciers officiels au détriment de l'investissement public, soit ils risquent le défaut sur les banques africaines, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires. Sur le plan macroéconomique, cela accroît l'incertitude et freine la croissance.
Y a-t-il des précédents historiques ou des scénarios comparables qui pourraient éclairer la situation actuelle?
Dans les années 1980, la crise de la dette latino-américaine a montré qu'une gestion rigide des priorités de remboursement peut étouffer la reprise économique. Si l'Afrique suit la même trajectoire, les conséquences pourraient être de longue durée, impactant la stabilité sociale et l'accès aux services publics essentiels.
Quelles solutions ou réformes pourraient atténuer ces risques et renforcer la capacité des banques africaines à soutenir le développement durable?
Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse et protège le statut de créancier privilégié de ces institutions africaines. Cela pourrait passer par des accords internationaux ou des clauses spécifiques dans les restructurations de dettes. Par ailleurs, encourager l'innovation financière et la coopération entre banques régionales offrirait une meilleure résilience face aux chocs.
Pensez-vous que les créanciers officiels sont prêts à modifier leur approche à court terme?
Le contexte politique et économique reste complexe, mais la pression des marchés émergents et des organismes multilatéraux pourrait jouer un rôle déterminant. Il est encore temps pour les gouvernements créanciers de démontrer leur soutien en s'alignant sur les principes de développement équitable et durable pour l'Afrique.